Donc c'est reparti avec Joël. Donc après nous avoir parlé des mystères de Jérusalem, tu vas nous parler maintenant de Qumran, c'est ça?
Oui, c'est ça. Donc là, je vais vous parler de Qumran, d'Eliette Abécassis. Donc on avait déjà une fois parlé d'elle dans une chronique précédente, mais bon, la tête de
Rappelle-nous
Lyon.
le livre, s'il
Non,
te plaît.
c'était pas un livre, c'était pas un livre, c'était Eliette en général, parce que c'est un auteur que j'aime beaucoup. Donc entre autres, j'avais parlé de la trilogie Qumran, le trésor du temple, la dernière tribu. Mais j'avais aussi parlé d'autres livres qu'elle a écrits. Et voilà, donc en fait, juste pour rappeler, c'est une auteure française d'origine juive qui écrit en fait beaucoup de ses intrigues en fait de livres sont en rapport avec le judaïsme. Voilà, donc entre autres, Qumran, qui est en fait son premier roman. Pour lequel elle avait décroché une bourse, et donc elle est partie en Israël pendant un an pour faire des recherches sur Qumran, etc.,
Donc elle parle quand même assez.
et écrire son livre.
Elle parle quand même en connaissance de cause. Alors, enfin, elle est quand
Ouais,
même.
je pense que
Elle
c'est
s'est
quand même.
imprégnée.
Enfin, voilà, je pense que c'est quand même. Enfin, de toute façon, quand on lit. Déjà, le livre, il est beaucoup. Enfin, je pense qu'il fait déjà au moins 5 pages de plus que Les Mystères de Jérusalem. C'est en livre de poche, c'est écrit super petit. Et voilà, c'est pas le livre qu'on lit sur la plage. Alors, je ne pense pas personnellement, moi non. Voilà, non, enfin, je dirais un peu plus pourquoi il faut lire, mais on va peut-être d'abord parler du pitch, ça sera plus simple. Donc, alors dans Qumran, qu'est-ce qui se passe? Donc, on découvre David Cohen, c'est un paléographe, donc on ne peut pas confondre avec paléontologiste, au cas où.
Oui, j'ai failli le faire d'ailleurs.
Voilà, c'est ça.
J'ai toujours pensé qu'on disait paléontologue.
Ouais, enfin, peu importe, enfin, Ross Geller, paléontologiste, quoi. Parce que, donc, paléographe, c'est pas du tout la même chose.
Et c'est quoi alors un paléographe?
Bah, c'est quelqu'un qui travaille sur les manuscrits anciens, etc. Donc, parce qu'en fait, j'ai une copine qui est paléographe et quelqu'un d'autre m'a dit, ah, comme Ross Geller dans Friends. Non, pas du tout, en fait.
Pas du tout.
Voilà, c'est pour ça. Donc, voilà, donc il y a ce paléographe qui s'appelle David Cohen et. Il a un ami qui est donc israélien et il a un ami proche qui vient le voir. En fait, cet ami proche, il travaille pour le Shin Bet, donc c'est le service de renseignement intérieur d'Israël, qui le charge de récupérer un manuscrit de la mer Morte qui aurait été volé. Donc ça, c'est vraiment le point de départ de l'intrigue. Mais en fait, on va très vite passer de David Cohen à Harry Cohen, qui est donc son fils. Donc, Harry Cohen, en fait, c'est un ultra-orthodoxe. Il vit à Jérusalem, dans le quartier de Mea Shearim, qui est donc le quartier ultra-orthodoxe. Ceux qui ont lu d'autres livres d'Eliette Abécassis, je pense, connaissent bien un peu déjà cette ambiance. Et il consacre donc sa vie à l'étude des Écritures saintes. Et donc, comme le père, lui, est a priori agnostique ou athée, enfin, ou pas du tout juif pratiquant, il s'adjoint de son fils pour cette enquête. En fait, on va vite voir que c'est plus le fils que le père qui va mener l'enquête. Et donc, en même temps, ils ne sont pas forcément trop de deux pour enquêter sur cette disparition de manuscrits et surtout sur les meurtres qui s'enchaînent autour de tout, enfin, qui se déchaînent plutôt autour de tous ceux qui ont été en contact avec les manuscrits. Donc, là, tous les chercheurs en fait, qui travaillent. Dans l'équipe de recherche autour des manuscrits de la Mer Morte, en fait, meurent tous les uns après les autres.
Mais est-ce
Où
que.
il leur arrive vraiment des choses pas vraiment super cool. Lio, tu veux me poser une question?
Non, mais attends, j'ai bien compris, ils avaient bien Harry Cohen.
Oui.
D'accord.
Non, pas Harry Covert.
Non, mais.
Non,
D'accord.
comme Harry Potter?
Non, comme Harry Cohen. Mais...
Harry Cohen, ouais.
Ok,
Ouais,
bon.
mais
Non,
bon.
excuse-moi. Mais lui, il va rester en vie alors, parce que ça me perturbe depuis tout à l'heure. Je suis désolé, Joël.
Non, il meurt pas.
Bon, ça va
Harry ne
alors.
meurt pas. Et de toute façon, il est dans les trois tomes de trucs. Il ne peut pas mourir.
D'accord.
Harry ne peut pas mourir, c'est impossible. Donc,
Excuse-moi, excuse-moi.
voilà. Donc, alors pourquoi est-ce qu'on peut lire ce livre? Donc, autant le dire tout de suite. Donc, Les Mystères de Jérusalem, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est très très facile. Enfin, c'est vraiment très facile à lire. Autant Qumran, c'est quand même beaucoup plus ardu, mais je vais être obligée de le dire, ô combien meilleur. Donc dans les Mystères de Jérusalem, on va passer l'éponge sur certaines incohérences scénaristiques, parce que l'histoire c'est vraiment très rondement menée, donc ça va très vite, et puis bon, s'il y a des trucs un peu invraisemblables, c'est pas grave, on passe quoi. Dans Qumran, en fait, le rythme est beaucoup plus lent, et on est quand même... Il y a aussi un peu ce côté quête métaphysique, mais c'est vraiment beaucoup plus profond que dans les mystères de Jérusalem. Et surtout, c'est remarquablement bien écrit. Genre, il y a certains passages, voilà, c'est magnifique, tu les lis trois fois, et genre, comment elle a fait pour écrire un truc comme ça, quoi. Voilà. En plus, dans un livre qui est un genre de thriller, truc à suspense, plus ou moins policier, bon, encore une fois, c'est pas un policier qui mène l'enquête, mais il y a quand même tout le côté des meurtres, etc. C'est vraiment rare de trouver des passages comme ça dans un livre à suspense. Donc, voilà. Après, un autre point, je trouve, qui est intéressant. Dans chaque chapitre, en fait, est introduit par une épigraphe qui présente un extrait d'un manuscrit de la Mère Morte et pas forcément les manuscrits, des extraits de manuscrits, entre guillemets, bibliques, qu'on a déjà pu lire dans la Bible, mais aussi d'autres manuscrits qui se trouvent à Courmoine. Donc, ça permet, en fait, de découvrir aussi... vraiment ces manuscrits, parce que en fait c'est des choses dont on n'a pas l'habitude d'entendre parler, donc ça aussi c'est très intéressant. Et également un autre point intéressant, c'est que bien que ça avance à un rythme moins soutenu, la narration est quand même assez palpitante. Il se passe quand même des choses. Alors, c'est pas juste l'introspection spirituello-métaphysique de Harry Cohen, même si bon, il y a des passages quand même très centrés là-dessus, mais voilà, il se passe vraiment des choses dans le livre. Le seul bémol, on va dire, que c'est peut-être pas recommandé aux âmes sensibles, parce qu'il y a des passages qui pourraient vraiment choquer. Comme j'ai dit, l'équipe de chercheurs a beaucoup de problèmes et il y a des morts violentes et franchement dit, il y a des passages qui sont vraiment ultra trash. Je pense que ça peut vraiment choquer. Après, voilà.
Donc elle détaille pas mal ce genre de moments.
Donc disons qu'il y a une fameuse scène avec un des chercheurs qui prend des champignons hallucinogènes. Voilà. Ça peut être. Je pense que ça peut être traumatisant pour les âmes sensibles. Okay. Donc voilà.
Et par contre, celui-là, il faut un peu plus de connaissances, alors que tu disais.
Disons déjà, c'est quand même, je pense que c'est beaucoup plus documenté. Alors, par exemple, une des choses qui. Il y a quand même des très longs passages descriptifs, ou alors des passages où elle utilise des tas de passages de la Bible pour, en fait. Illustrer des situations dans lesquelles Harry se trouve, etc. Donc, je pense que c'est plus facile à lire si tu as une bonne connaissance de la Bible.
D'accord.
Parce que tout d'un coup, bam, il est en train de faire un truc et là, plaf, il y a un passage des psaumes. Bon.
Donc, il faut avoir lu la Bible avant.
Ouais, si tu as lu la Bible avant, je pense que ça peut aider.
D'accord.
Tu te sentiras moins perdu.
1500 pages d'abord et ensuite 360.
Hop, Qumran. Et non, mais en fait, après, je sais pas. Moi, c'est aussi comme ça que je le vois parce que. Je sais pas, j'apprécie certains passages, la façon dont elle utilise donc certains passages bibliques pour illustrer son propos. Enfin, je trouve ça très très intéressant. Et après, elle utilise aussi beaucoup de vocabulaire, du judaïsme, etc. Si on connaît pas bien le judaïsme, c'est peut-être un peu ardu. À la fin du livre, il y a un glossaire, donc si on comprend pas un mot, on peut toujours aller à la fin. Après, il y a aussi tout un truc avec la symbolique des lettres en hébreu. Donc, il y a l'alphabet hébraïque à la fin du livre. Donc, voilà, c'est un peu plus compliqué. Et enfin, j'ai envie de dire que on mesure aussi un peu la qualité des livres à la qualité de ses héros. Donc, je ne vais pas vous refaire un plan Octave Mouret, c'est bon. Mais limite, quand même.
Explique-nous quand même, qui est Octave Mouret ?
Octave Mouret dans Le Bonheur des Dames, pour ceux qui ne nous écoutaient pas la dernière fois, qui est un peu mon amour littéraire de ma vie, voilà.
C'est dit.
Donc, Harry Cohen, désolé. Et c'est quand même un peu le super-héros qui est à la fois romantique au sens noble du terme, non, terriblement sensible, mais quand même étonnamment valeureux. Je dirais en même temps, il est plongé dans. Enfin, il est un peu plongé dans son monde, parce que, bon, déjà, voilà, il vit dans son quartier, il sort pas de son. de son, non, son, son étude, en fait, où il se retrouve avec d'autres pour étudier la Bible. Et donc, en fait, une fois qu'il est confronté au monde, voilà, c'est pas forcément... Sa sensibilité, en fait, elle est vraiment heurtée, etc. Il a plein de cartes de conscience, il se pose beaucoup de questions, etc. Et en même temps, il est hyper courageux. Je veux dire, il y a quand même plein de méchants dans ce livre. Mais ils sont vraiment très méchants. Et donc, en même temps, il est à la fois hyper sensible et très, très valeureux. Et bien sûr, en plus... voilà, c'est un personnage qui est très intéressant parce que il porte quand même toute la narration, en fait, elle est portée juste par le personnage d'Harry. Et en fait, elle fait absolument tout passer, c'est-à-dire elle parle vraiment de plein de choses aussi au niveau de l'intrigue. L'intrigue, c'est hyper compliqué. Hein, donc, c'est très intéressant. Enfin, voilà, c'est passionnant, mais c'est compliqué. Parce qu'il y a plein de personnages, il y a plein d'intérêts différents. Les gens, ils sont tous... il y a différentes sortes de méchants et ils ont tous des intérêts différents. Donc, je ne vais pas trop dire parce que sinon, ça a complètement cassé le suspense. Mais voilà, donc du coup, je ne sais plus ce que je voulais dire. Ce n'est pas grave. Voilà, donc en fait, il est très érudit. C'est un personnage hyper intéressant. Bon, malheureusement, il y a deux tomes... après Qumran, en fait, elle a tout mis, enfin, genre, elle a tout lâché dans le 1. Et après, le 2 et le 3, c'est quand même c'est beaucoup moins bien. Heureusement qu'il reste Harry, j'ai envie de dire, parce que comme ça, elle a créé un super personnage, donc on continue à lire les livres parce qu'il y a ce personnage qui est là. Mais il ne faut pas trop s'emballer sur le 2 et le 3. Voilà.
D'accord, ok.
Donc après la pause, le vrai faux, complètement faux, archi faux.
Ouais, alors on va juste reprendre si tu veux bien les deux noms des romans.
Alors on reprend les deux noms des livres. Donc le premier livre dont j'ai parlé, c'était Les Mystères de Jérusalem de Mary Calter. Donc en pocket. Et le deuxième, c'était Qumran d'Eliette Abécassis en poche, au livre de poche.
D'accord. Ok, bah du coup, on va un peu prendre le temps de recogiter tout ça et puis on va passer après aux questions avec donc Mickaël Langlois qui est notre invité ce soir et qui remplace notamment Jean-Philippe et qui du coup va un peu répondre amener une base peut-être plus... comment dire, plus historique, plus scientifique par rapport à des éléments de ces livres. Bon, un petit peu de musique et puis on se retrouve tout à l'heure.